qu'on fait à nos cinq, que nos cinq, ça a
donc l'activité de nos cinq a commencé en 2000, pour en parler en 2003. Alors c'est MO5, c'est né donc de l'association de deux collections personnelles. Donc moi j'étais collectionneur de vieux jeux vidéo et vieux ordinateurs 8 bits. Donc j'avais des gros stocks qui débordaient, des garages, des caves, etc. Et j'ai rencontré un autre collectionneur comme moi, donc Philippe Dubois. Et donc on a décidé d'entreprendre, de monter une association. On voyait le matériel disparaître très très rapidement. Donc on a commencé à entreprendre donc un travail associatif et surtout un travail de récupération de ce vieux matériel et de mise à disposition donc de la communauté de certains matériels, que ce soit des ouvrages, que ce soit des machines, que ce soit des magazines, et puis faire partager un certain nombre de passions et de connaissances relatives aux jeux vidéo, et pas seulement aux jeux vidéo, mais aux 5 ordinateurs 8 bits. Voilà. Donc on a travaillé avec quantité de partenaires, c'est-à-dire on ne s'est pas limité simplement aux jeux vidéo et aux ordinateurs. On a travaillé aussi avec des musées sur des expositions qui concernent le design, sur des expositions éducatives, enfin sur des tas de domaines. Donc on a choisi comme un petit peu comme notre mot d'ordre, hein, c'est préserver, étudier, rejouer. Voilà. Alors, donc je vous ai relaté rapidement, je vais vous relater relativement donc, l'histoire de l'association. Donc, on a donc une collection qui est très très importante en état de fonctionnement, avec plusieurs dizaines de milliers de machines, hein, des logiciels, etc. Donc on a énormément de choses qui sont à disposition, qui sont accessibles, hein, pour les membres de l'association et puis pour d'autres partenaires. On a donc, basé en région parisienne, donc on a 50 membres vraiment actifs, c'est-à-dire qui travaillent pour l'association, que ce soit son site internet, que ce soit la restauration des machines, la mise en marche des machines, etc. etc. Et puis bon, il y a bien d'autres membres, mais qui passent de manière un peu plus occasionnelle en fonction de leur disponibilité. Voilà, et donc on travaille, MO5, donc bien sûr, on a besoin effectivement d'entretenir nos locaux, on a besoin de faire fonctionner l'association, donc on vit essentiellement de nos expositions et puis de certains partenariats avec des institutions publiques et puis aussi avec des partenaires privés. Voilà. Alors, donc le MO5, bon, je ne sais pas si ça fait tilt pour tout le monde. Je pense que pour les plus anciens, ça fait tilt. Je ne sais pas si pour les plus jeunes, ça fait, ça vous dit quelque chose, non? Enfin, j'aurais peut-être dû en prendre un en photo alors. Donc MO5, c'est un ordinateur dont on a été victime, hein, victime. En même temps, on a profité. Donc dans toutes les lycées de France, les collèges de France, les écoles primaires de France, dans les années 80, il y a un plan qui s'est appelé Informatique pour tous. À l'époque, c'était quoi? C'est Laurent Fabius qui avait lancé ça. Donc, il y avait des ordinateurs pour tous les petits Français. Évidemment, personne n'achetait le MO5 à la maison. Le MO5, c'était qu'à l'école. À la maison, on avait plus des Oric, des Commodore 64, etc. Donc, on a presque tous les petits Français de cette époque, cette génération, ont vu MO5. Certains ne l'ont pas vu puisqu'on a récupéré du matériel d'école qui n'avait jamais été déballé, nous, qui nous a été donné. Donc, voilà, c'est donc MO5, ça fait référence à un petit ordinateur Thomson gris avec des touches grises. Et voilà, qui se branchait sur la télévision avec des jeux qui étaient essentiellement, qui n'étaient pas terribles, on ne s'amusait pas trop avec un MO5. Il y avait beaucoup de jeux éducatifs, enfin tournés dans le domaine de l'éducation. Voilà. Alors donc le but d'MO5, comme je l'ai dit, c'est de sauvegarder le patrimoine informatique et vidéoludique et de faire découvrir ce patrimoine et puis toutes ces technologies. Donc quand je dis bouleverser vie, ça paraît un petit peu aujourd'hui. Marrant, je pense que pour cette génération-là, c'est un outil commun et banal. Dans les années 80, avoir ne serait-ce qu'un ordinateur, l'ordinateur 8 bits qui rentrait dans les maisons, c'était quand même, c'était pas la majorité des foyers qui en faisaient l'acquisition, et c'était quand même assez exceptionnel, quoi. C'était pas, voilà. Donc, c'est bon. Dans les années 80, on a eu cette particularité, c'est quand même des petits ordinateurs 8 bits qui ont damé le pion au console de jeu Atari, VCS, etc., où il y avait des titres qui n'étaient pas très intéressants, pas très jouables sur la fin, beaucoup de titres, puis des jeux pas passionnants. Donc quand on jouait, c'était plus à cette époque en salle d'arcade et en. Voilà, il y a la maison sur les ordinateurs 8 plus que sur les consoles. Alors là aujourd'hui, donc on ne s'est pas été actualisé, donc les machines, on a. On doit être maintenant, puisqu'on a de grosses acquisitions et de gros dons, et plus autour de 1500 machines, je parle en pièces uniques, en vieux Pong. Enfin, ils avaient des machines, il y avait une variété de machines et de jeux vidéo qui était quand même très très important par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui. On a donc énormément de logiciels. Alors, dans les logiciels, c'est dans leur état original avec leur packaging, avec des fois les sources, avec des fois le commentaire des auteurs, avec différentes variantes. On a donc un certain nombre d'ouvrages techniques, surtout essentiellement donc des magazines, donc d'époque, sur le jeu vidéo, sur le design, sur le graphisme, etc. Tout ce patrimoine, donc, il est bien sûr accessible, hein, si voilà, vous voulez faire connaître MO5. Alors, je parlais au début de l'association, c'est aussi de nous faire connaître et de savoir en tout cas bah, tous les gens qui nous ont fait confiance, hein, qui nous ont donné énormément de matériel. J'espère que ce sera peut-être vous aussi, si vous avez des vieilles choses qui traînent. Eh bien, tous ces gens-là, donc voilà, le message, c'est que c'est quand même mis à disposition. Hein, la connaissance est mise à disposition et ces objets sont aussi mis à disposition. Alors, donc l'origine des membres au départ, bah, il y avait essentiellement bon, des enseignants, des chercheurs, des conservateurs, des journalistes. Et puis aujourd'hui, on se rend compte qu'on a quand même un public qui est très très varié, hein, qui viennent du monde de l'informatique, du jeu vidéo, mais aussi d'autres domaines, qui apportent d'autres compétences qui nous permettent ben voilà, de travailler sur d'autres objets. Alors, quand je parle d'ouvriers, on a pas mal de gens qui travaillent, qui restaurent des tas de meubles, de vieux meubles, de bornes d'arcade, etc., qui en font de nouveaux. Enfin, voilà, on a aussi ce genre de matériel à disposition. Voilà, donc tout ça, on le fait fonctionner. Alors, les partenariats donc, avec lesquels on a travaillé, donc, il y a régulièrement, je dirais, en région parisienne, à peu près 3-4 événements dans l'année avec lesquels on participe. Et en permanence, il y a à peu près toujours deux institutions en région parisienne sur lesquelles on peut visiter donc, des expos à thème. Alors, en général, ce n'est pas nous qui initions le thème de l'exposition. Donc, les arts décoratifs, ils n'ont pas pour but de faire des expos jouables sur le jeu vidéo, ils s'intéressent aux consoles, au design des machines, etc. Quand on travaille avec. Ben là, on va avoir une grosse exposition avec les arts et métiers, là, qui va tourner sur l'histoire du jeu vidéo, hein, sur son implication aussi dans le comportement des gens, les changements de comportement. On travaille avec la BNF aussi beaucoup pour le dépôt logiciel, puisque aujourd'hui, à MO5, on a beaucoup de compétences dans le domaine de la restauration des logiciels, donc les vieux logiciels, vieilles cassettes, vieilles disquettes, quels que soient les formats, donc on est capable de les restaurer, de les relire. Donc il y a une question pour la BNF d'être capable de lire tous ces vieux médias et donc on est les acteurs avec lesquels ils travaillent. Et puis après, on travaille avec différents partenaires privés. Donc aujourd'hui, on a beaucoup d'éditeurs. Hein, donc c'est vrai pour Sega, hein, qui est cité, mais d'autres éditeurs qu'on est en train de signer, qui déposent donc un exemplaire de tout leur logiciel chez MO5. Voilà. Donc j'espère qu'on récupérera plein de logiciels écrits par les gens de Gamagora bientôt, enfin les futurs diplômés. Donc on a ce travail-là, donc c'est un immense boulot. Alors là, on commence un petit peu à être limité pour des questions de place. Donc ça fait partie aussi, nous, de faire connaître ce travail, puis de le faire reconnaître. C'est aussi ce qui va nous permettre de continuer dans les différents axes. On ne pourra pas maintenir l'activité dans tous les domaines qu'on a aujourd'hui. Donc il se peut qu'on scinde certaines des activités ou des travaux avec d'autres associations, d'autres partenaires. On espère avec des laboratoires qui s'ouvriraient bientôt, qui permettraient de travailler sur certains domaines, par exemple, de conserver les logiciels à un endroit, de conserver les magazines, les ouvrages, effectivement, dans une bibliothèque type laboratoire. Donc c'est un petit peu l'objectif, c'est que ce patrimoine ne soit pas perdu. Voilà. Alors, donc bon, je vous ai dit, hein, des espaces de stockage, des partenariats, donc des langues, surtout donc le but au final, c'est un lieu d'exposition permanent, qui soit pas forcément que un musée de jeux vidéo, hein, une vitrine d'exposition permanente qui permette effectivement de faire connaître nos travaux et pourquoi pas donc un lieu qui soit, je dirais, commun à différentes activités, qui peuvent être des activités de recherche, des activités d'édition, etc. Donc il y a des pôles qui sont amenés à se former, en tout cas en région parisienne. On pense beaucoup, il y a l'île Seguin qui serait candidate pour devenir un pôle numérique de la région parisienne avec des éditeurs, avec pourquoi pas des labos de recherche, et puis des associations et des expositions permanentes. Voilà donc pour la partie de présentation de MO5. Alors, je ne sais pas si tout de suite vous voulez poser quelques questions, des choses sur nos activités ou sur comment devenir membre ou sur. Oui. Oui, d'accord, oui. Donc, on va. Enchaîner donc sur la partie interface. Donc on va parler donc ensemble des différents types d'interfaces de jeu. Donc nous l'essentiel des interfaces de jeu dont on dispose, qu'on est tourné plutôt vers d'anciennes générations d'interfaces de jeu. Hein, donc les interfaces que nous on conserve, hein, ce sont des interfaces qui ont été les plus usitées, disons, au cours des 30 dernières années, joystick, joypad, etc. Et également, on a quelques pièces qui étaient des pièces. Ils sont sortis assez tôt finalement, qui n'ont pas connu de succès commerciaux, soit par leur prix, soit par le problème de marketing, soit du fait que il y avait une question essentiellement de coût, et puis il y a beaucoup de marques qui se sont effondrées, même qui sont avec des produits très très novateurs, mais qui se sont effondrées devant les grands géants des jeux vidéo et de l'informatique. Alors, donc la plupart des interfaces que nous on a connues, une génération des années 80. Donc c'est essentiellement du joystick, du joypad, des petits boutons, des petits réostats pour guider donc des technologies relativement simples qu'on trouvait sur les Pong, qu'on trouvait sur les premiers jeux vidéo. Il faut savoir que les premiers ordinateurs 8 bits ont tous connu leur manette de jeu. La manette de jeu est arrivée assez tôt, finalement par rapport à la souris, hein, qui a été la souris. Donc quand on voit une souris, moi je pense finalement au magazine, etc. La première souris usuelle qu'on voit. On le voit avec le Mac Lisa, on le voit avec l'Apple II, etc. Donc c'est Apple finalement qui s'est approprié cette image-là, premier utilisateur de la souris, après on a eu Atari, etc. Mais donc dans les années 80, tous les petits ordinateurs 8 bits, il y avait le joystick, il faut pouvoir se le payer, hein, c'était pas peu cher sur toutes les machines. Ça peut paraître un petit peu dérisoire, mais c'était un périphérique qui n'était pas donné, qui n'était pas bon marché. Et donc il y avait le joystick, mais il n'y avait pas la souris. Voilà. Alors, donc il y a un certain nombre de joysticks. Alors, ce que je vous présentais, ces interfaces de jeu, la plupart que vous connaissez. Donc, et puis après, la réflexion qu'on s'est faite en travaillant ensemble, c'est est-ce que finalement certaines interfaces ne sont pas des joysticks camouflés? Voilà, est-ce que finalement ce ne sont pas des. Hein, quand on a certaines interfaces de jeu. Est-ce que finalement ce ne sont pas des joysticks camouflés? Ou alors, on verra après, ceux qui peuvent s'apparenter à des contrôleurs de simulation originaux et ceux qui peuvent procurer finalement de nouvelles expériences de jeu. Alors donc, la plupart des interfaces de jeu qui sont répandues, connues, plus ou moins connues du grand public, donc bien sûr les joysticks, les pads. Alors il y a des produits qui ont connu un certain succès. Donc ce Power Glove donc chez Nintendo qui était la première fois. Donc finalement ça on verra que c'est. Bon, il y a tout ce qui est pistolet, les casques virtuels et lunettes virtuelles qui sont venus très tôt finalement. Donc il y a déjà des lunettes virtuelles sur la Vectrex qui sont sorties sur Vectrex. Et finalement ça a été. Personne ne les a oubliées. Donc MO5 on a un exemplaire, mais dans le monde on va compter 10 exemplaires qui sont encore en état de fonctionnement. Voilà, ça s'est pas beaucoup vendu, mais donc les. Vectrex avait déjà eu l'idée de sortir ça. Puis après, bon, des tas d'appareils pour la musique dont j'ai parlé, bongo, il y a des guitares, il y a des voilà, Winmode, canne à pêche, maracas, un siège, volant, souris, etc. Donc, alors, parmi ces interfaces de jeu, il y en a qui procurent vraiment de nouvelles expériences de jeu qui sont intéressantes. Hein, elles sont toutes intéressantes de toute façon, ce qui permet toutes de jouer. Mais finalement, certaines n'apportent pas vraiment de grandes différences par rapport au joystick. Que ce soit en termes techniques, en termes de finalité pour jouer, c'est simplement pour rendre le jeu plus attrayant et plus accessible. Et finalement, ce qui a amené le développement de certains objets pour jouer, c'est Et on le voit par exemple quand on fait des expositions, etc. Ce qui a amené ces objets sur le marché, c'est davantage de convertir un nouveau public, de rendre accessible un jeu, un public qui ne jouerait pas avec la manette. Et finalement, ça n'est autre qu'une manette, sauf qu'elle n'a pas la même forme, par la forme d'une guitare, d'un gant, etc. Mais ce n'est pas une manette. Voilà. Donc la personne va plus facilement vers le jeu. Donc c'est plus une idée de conquête de marché qu'un apport nouveau pour certains objets, alors que d'autres objets ont vraiment des apports nouveaux, donnent de nouvelles sensations de jeu. Alors là, on ne traitera pas de tout ce qui est interface de jeu sur borne d'arcade, où là, il y a aussi quand même des processus, des procédés qui sont originaux, mais qui sont moins répandus dans le grand public. Finalement, quand on regarde certains objets, j'ai pris ici l'exemple du tapis de danse. Un tapis de danse, bon, finalement, ça permet de danser, mais finalement, c'est un joystick camouflé. Voilà, alors bon, il y a la sensation de mouvement, mais en termes de sensation, hein, c'est finalement, on retrouve dans ces objets-là ou dans le Power Glove, finalement, on retrouve des boutons, montée, descente, start, stop, etc. Donc, ce ne sont pas vraiment des objets qui apportent une immersion différente dans le jeu. Donc là, il y a la sensation de danser, on danse effectivement, mais finalement, par rapport au joystick, en termes de capteur, ça ne change pas grand-chose finalement. Il y a des boutons directionnels, sauf quand on appuie dessus avec les pieds, voilà, si on joue avec les pieds plutôt qu'avec les mains, mais c'est finalement, il n'y a pas une grande nouveauté de jeu par rapport au joystick. Alors que pour certains autres contrôleurs, on a vraiment des différences. Et finalement, ces différences, on s'en rend compte en faisant jouer des gens qui n'ont jamais joué ou qui sont vraiment rebutés par le jeu. Hein, quand on fait jouer, par exemple, nous sur des, on s'est amusé à faire jouer des personnes, par exemple des personnes âgées à des jeux vidéo qui n'avaient jamais joué à des jeux vidéo. Bah, par exemple, sur des jeux de canne à pêche, donc, qui étaient déjà sortis sur Dreamcast, et ben, ils arrivent à jouer, ils jouent facilement. Voilà. Ils jouent facilement à la pêche, alors qu'on ne jouerait pas facilement. Ils toucheraient jamais la manette, ou jamais du joystick, jamais du pad, etc. Donc il y a effectivement donc des expériences de jeu qui sont vraiment différentes et qui sont des manières de jouer qui sont complètement originales, qui sont complètement nouvelles. Donc il apporte, donc il y aura sans doute avec l'évolution des capteurs et puis surtout leur coût et leur développement de nouvelles manières de jouer. Alors donc ces contrôleurs, donc ces nouvelles expériences de jeu, donc effectivement il y a des contrôleurs qui sont une nouvelle expérience, mais bon, bah, quand on achète une canne à pêche, bah, finalement on peut jouer qu'à la pêche ou un ou deux jeux, donc c'est finalement il y a un vrai plus dans le jeu, il y a une vraie différence, mais par contre, c'est vrai qu'en termes de marché, ça se joue que pour quelques jeux, donc ça a quand même quelques limites, mais ça permet finalement de voilà d'élargir le spectre de ce qui est proposé au public. Voilà, alors bon, alors il y a effectivement donc. Je ne vais pas en parler longuement parce qu'il y a de grands spécialistes là. Donc là, oui, donc il y a effectivement un capteur, une manette donc équipée d'un capteur, donc une nouvelle manière de jouer. Mais il y a des jeux finalement, on se rend compte, qui sont des jeux sur lesquels on s'ennuie vite finalement, hein, qui ne conquièrent pas les gamers. On joue un peu, on arrive finalement, le Nintendo a réussi comme ça à gagner des parts de marché, à apporter des choses nouvelles, mais finalement, il y a des jeux sur lesquels on se lasse vite. Donc il y a des apports sur certains jeux, puis il y a certains jeux pour lesquels, donc, qui ont été vraiment des succès justement sur la Wii, ils n'ont pas été sur d'autres consoles, parce qu'effectivement, il y a un réel apport de cette manette, mais ce n'est pas un apport qui est systématique, qui présente donc ses limites. Voilà. Donc hein, je pensais notamment le succès des Lapins Crétins, Rayman, etc., le marché sur PS2. Et puis bon, il y a certaines limites, hein, certaines limites. Bon, quand on prend des jeux comme Zelda, quand on joue à la Wii, où il n'y a pas de grande différence, de grands apports finalement de la manette, de la Wiimote par rapport à une autre manette pour le plaisir de jouer, ou quand on se confie, on écoute les confidences des différents joueurs, on se rend compte que finalement ces jeux sont pas forcément n'ont pas vraiment d'apport qualitatif avec tel type de jeu. Alors, il y a d'autres formes de finalement d'expérience de jeu, hein, qui vont quasi virtuelles. Bon, à l'avenir, il y a aussi beaucoup de technologies, bon, qui ne sont pas encore sur le marché du grand public, hein, de capteurs branches directement, qui permettent de piloter des souris, de se guider sur un écran, tout, qui sont, ont un grand apport pour le jeu vidéo, mais déjà aujourd'hui pour certains handicapés, pour le, dans le domaine du handicap. Finalement, ces interfaces de jeu ont donné des idées, hein, et donc il y a des interactions donc, du jeu vidéo avec le domaine médical, hein, qui permettront donc, à des gens, puis après à des joueurs de jouer sans les mains, peut-être directement par la pensée, on peut rêver, mais en tout cas, il y a des choses qu'on sait faire déjà avec des prises de signaux nerveux, des choses comme ça. Voilà. Moi, je vous remercie toute votre attention. Voilà.
Oui, je voulais te faire revenir sur les lunettes virtuelles et les outils de simulation. C'est à quelle époque qu'on voit apparaître
Dans les années 80, il y en a déjà, mais c'est hors de prix, c'est pas très beau, ça fait mal aux yeux. Finalement, le plus gros succès commercial, celui qui est le plus connu de tout, je pense que en termes de lunettes pour jouer, c'est le Virtual Boy, qui est, je pense, qui, si on demande aux personnes, si on demande différents objets, lequel vous avez déjà vu, vous avez déjà touché ou vu dans un magasin de vitrine, je dirais que c'est celui-là qui est le plus. Sur Nintendo, c'est celui-là qui est le plus vu. Hein. Vectrex, ça a été complètement. Ça a été complètement des sorties complètement exotiques. Hein. Et après, sur PC, dans les années 90, il y a de très bons casques virtuels sur lesquels on peut vraiment jouer. Mais après, il y a une question de goût. Il y a une question de goût, et puis il y a aussi une question de priorité, de ce qu'on priorise, des priorités qui ont été placées par les revendeurs. C'était vraiment, à part quelques joueurs ou quelques personnes très exigeantes, il y a eu très peu d'achats de casques virtuels. Il y en a eu aux États-Unis pas mal. Et en Allemagne, en France, il y a eu très très peu de ventes. Après, il y a des canaux de distribution aussi. Sur ce qui s'est vendu en Allemagne, aurait pu se vendre en France ou le contraire. Ça dépend un petit peu. Des fois, c'est au hasard du revendeur, que le revendeur ou des grossistes, qu'on retrace finalement l'histoire d'un pays qui arrive à s'implanter plus dans un pays qu'un autre.
Et en termes d'illusion de 3D, ça rend quoi?
Alors, pour ces produits-là, je dirais la principale difficulté, c'est que ça fait mal aux yeux. Non, mais c'est vrai qu'il faut tenir le coup. Donc finalement, c'est occasionnel, mais c'est vrai que c'était la limite des produits. Mais ça pourra revenir. Après, ça dépend le prix auquel ça va sortir. Parce qu'aujourd'hui, il y a des bons produits qui ne fatiguent pas. Il y a une bonne quand même, il y a une bonne immersion dans le jeu. Il y a vraiment le fait que, même si on est sur un Virtual Boy qui fait très mal aux yeux, il y a quand même une expérience de jeu, on est complètement isolé, on ne voit pas ce qu'il y a autour, on est vraiment immergé dans le jeu. Hein, il n'y a pas l'écran et puis finalement l'environnement de l'écran. On est dans le jeu. Donc il y a quand même ce plaisir-là. Maintenant, c'est un plaisir dont on n'abuse pas parce qu'il faut tenir le choc quand même. Voilà.
Il y avait une grosse limite technologique aussi à l'époque qui était due à la définition des LCD.
Ouais,
En
ça
fait,
c'est.
j'avais testé à l'époque du Nukem 3D, ces casques 3D-là, effectivement, c'était quasiment injouable parce que la définition était telle qu'on voyait juste des grosses formes bouger les unes par rapport aux
Ouais,
autres.
mais c'est pas la seule limite parce que, quand même, quand on regarde finalement les vieux jeux, ou même quand on fait jouer aujourd'hui des gens à des vieux jeux, que ce soit sur un écran, sur un casque, ce qui rend, c'est le plaisir à jouer va pas forcément venir de la définition. Si on a envie de rentrer dans le jeu, on a envie de jouer, même si on a un jeu qui est très pixelisé ou si on a des sprites qui sont très mal définis. Si on se prend au jeu, on va le jouer, que ce soit avec les lunettes 3D ou avec les autres, quoi.
Et
Parce que
c'est
quand
ça
c'est.
qui faisait aussi un peu mal aux yeux et
Ouais.
qui causait aussi
Ah oui, ça c'est sûr.
en grande
Hein.
partie l'inconfort. Mais maintenant, avec les technologies actuelles, je pense qu'on
Ouais.
va avoir des choses
Bah,
qui
depuis
sont
les années
mieux.
90, il y a des casques pas trop trop chers, quoi. C'est pas un cadeau, c'est quand même plus cher qu'un écran, mais bon, enfin, qui sont accessibles, qu'on peut acheter à titre qu'un particulier peut acheter. Bon, c'est un effort financier, mais c'est pas non plus insurmontable.
Mais c'est aussi que sur ces casques, souvent c'était des jeux qui avaient été conçus, bah, comme Duke Nukem, c'était conçu pour un écran classique. Et c'est pas conçu pour ce type d'écran, et il n'y a pas eu suffisamment de temps ou le
Ouais.
marché assez conséquent pour développer des jeux uniquement pour certaines plateformes. Même si Virtual Boy a essayé de le faire, si je me souviens
Ouais,
bien,
ils ont
mais
essayé, mais
c'était
c'était.
tellement, ça faisait tellement mal aux
Non, non,
yeux
non,
que
il fallait tenir.
justement.
Alors, il y a des jeux, par exemple, et puis il y avait aussi la question de l'interface, parce qu'il y avait beaucoup de. Les fabricants de casques, en général, donc c'était des gens qui avaient bossé un peu pour le militaire et tout, et il y avait juste l'entrée VGA, alors qu'il y a des jeux, par exemple, une console qui aurait pu vraiment marcher, qui avait des jeux pour ça, comme Raze, etc. Des consoles comme la Dreamcast, qui auraient vraiment pu marcher, seulement on avait un produit avec une sortie VGA, il fallait l'adaptateur en plus, etc., des pertes de qualité d'image et tout, donc ça n'a pas fonctionné. Parce que sur du jeu PC, finalement, c'était moins intéressant, quoi.
Mais tu as l'air de dire en fait que finalement c'est parce que le marché, enfin c'est aussi que le marché n'était pas mûr pour ce type de casque.
Oui, bah, il y a le produit, il y a le marché, il y a le prix, enfin il y a un certain nombre de...
Donc, sans faire de l'astrologie, ça sous-entend que c'est possible que ça revienne en fait assez vite maintenant que le public du jeu vidéo est plus large. Bah, que,
de toute façon, il va forcément, bon, il y a quand même un gros fabricant qui est sorti du domaine des consoles qui est Sega, qui est sorti finalement relativement tôt, qui a renoncé, qui aurait pu continuer à se battre contre Nintendo et les autres, qui a laissé tomber, qui s'est dirigé vers... du logiciel, il y a, je pense qu'il peut y avoir de la place, bon après tout dépend du type de marché, pour certains petits fabricants qui vendraient à la fois du logiciel et des périphériques ou des choses un petit peu originales, mais c'est sûr que le casque virtuel reviendra, quoi. Les lunettes 3D, le casque virtuel avec ce qu'on sait faire aujourd'hui en termes de définition de LCD, c'est sûr que c'est quelque chose qui reviendra.
Il y a Orange notamment qui a vendu il y a 3 ans, 4 ans, des lunettes qui étaient adaptées pour mobile ou pour petits appareils nomades, des petites lunettes semi-immersives 3D qui s'appelaient Mayu. J'étais à 200 euros. C'est-à-dire que potentiellement, on aurait pu jouer avec ça, les utiliser comme lunettes immersives pour jouer avec des jeux vidéo. Ouais.
Il y a Essilor qui travaille aussi sur les lunettes.
C'était du bien Essilor.
Ah, ouais. Parce que maintenant, il y a Essilor qui travaille avec sur les projections rétinières. On peut faire des projections directement sur la rétine à partir de petits... chose qui est posée sur les lunettes, mais c'est pas du tout dans un objectif jeu vidéo pour l'instant. Ils ont des problèmes d'acceptation dans les usagers.
Bon, il y a aussi certains jeux qui peuvent revenir et qui prennent un peu de place dans l'hivernement aujourd'hui. Bon, j'ai peu parlé, c'est tout ce qui est siège auto. Ça, effectivement, c'est finalement un périphérique qui fonctionnait bien assez tôt. Hein, sur les Sega, sur les Saturn, il y avait des sièges auto qui marchaient bien, qui avaient de bonnes sensations. Bon, aujourd'hui, les jeux sur lesquels on a des bons sièges auto, ce sont des gros jeux d'arcade, des très grosses bandes d'arcade qui prennent la taille de cette pièce. On peut envisager que ça revienne aussi. Voilà. C'est plus compliqué à vendre, c'est plus gros. Voilà.
Juste un rapport d'histoire. Le Power Glove, c'était quoi, comment ça fonctionnait?
C'est se brancher sur la NES, on met la main dessus, puis après, il y a un certain nombre de boutons et de... pour piloter le jeu en fait.
Mais voilà. Ça servait à quoi?
C'est l'idée, c'est de jouer.
On joue comme ça en fait.
Non, il y avait des gestes.
Il y avait des gestes, c'est envoyé, voilà.
Si tu remontres le. Voilà. On voit qu'il y a des. En fait, ces machins là.
Ça ici là.
Était posé contre la télé. Ouais. Et puis là, mettait des ultrasons qui étaient captés par.
C'est là
par
où
exemple,
fait.
Voilà.
Ouais, sauf que c'est des ultrasons et pas des.
Voilà. C'est pas la même technologie, mais sinon.
Ça tombe en panne, voilà.
Ça marchait pas.
Ça marchait pas très bien.
L'objet est hyper cool à part ça.
Par contre, l'objet est beau. C'est vraiment un bel objet.
C'est un peu Robocop, quoi. Je voulais revenir sur. Si tu avais une autre question.
Juste une question. En vrai, ce qui m'a beaucoup marqué dans l'histoire de joueur, c'est le passage au stick analogique sur console.
Oui.
Qui avait la Dreamcast, la 64 et tout. Est-ce que les joysticks qu'il y avait sur les années 80 sur les ordinateurs 8 bits, c'était aussi analogique ou c'était juste.
Non, ouais, il y avait de l'analogique, il y avait pas mal de réostats, etc. à l'intérieur quand même. Hein, c'était pas. C'était pas l'interrupteur basique, ça dépendait après d'un petit peu de ce qu'on investissait, ça dépendait de la plateforme, etc. Mais bon, de toute façon, les premiers joysticks, les boutons qu'on tournait là sur les Atari Pong, etc., c'était du rhéostat. Hein. C'était du rhéostat qui fixait la position du. Donc c'était le rhéostat avant l'interrupteur, hein, avant la petite croix pour se diriger. Quoi.
Oui, j'avais une question en fait. Tu dis que pour faire jouer aux jeux vidéo aux retraités, il faut leur faire jouer à la canne à pêche.
Non, mais je dis pas ça, je dis simplement que
c'est... En fait, la question que je me pose, c'est est-ce qu'ils ont joué parce qu'il y avait une canne à pêche ou ils ont joué parce que c'était un jeu assez pacifique, et donc loin des clichés qu'eux-mêmes pouvaient avoir sur le jeu vidéo?
Je pense que finalement, je mettrais pas les différents paramètres, je ne les mettrais pas les uns derrière les autres. Je pense que le premier paramètre, c'est un petit peu quand même l'inhibition vis-à-vis d'un objet qu'on n'a jamais eu entre les mains. Ça peut être une souris, ça peut être un joystick, etc. Sur des personnes âgées, ce qu'on voit, c'est effectivement, bon, alors après, on peut faire le premier pas avec elle, etc. Mais se dire, de toute façon, ça, on ne peut pas jouer, c'est un, un matériel qui est complètement étranger à mon existence, c'est pour les plus jeunes que moi, etc. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'idée même qu'on puisse jouer. Après, l'idée de pacifique, etc., c'est un autre paramètre qui peut jouer en plus, mais disons que certaines interfaces de jeu lèvent tout simplement l'inhibition. C'est-à-dire qu'il y a une prise en main qui est très facile. Il n'y a pas l'idée de se dire bah, « c'est pas pour moi » ou « j'y arriverai pas » ou « j'ai jamais vu, ça m'a pas intéressé avant, ça va pas m'intéresser maintenant », etc. Je prends en main facilement.
Parce que inversement, enfin moi je suis grand fan de Guitar Hero et je désespère la plupart des copains ne veulent pas jouer à Guitar Hero parce que l'idée d'avoir une guitare dans les mains, voilà, j'y arrive pas parce que ils disent, enfin pour le coup c'est les fans, enfin eux ils sont inhibés pour le coup par ce nouveau type de, y compris des gens qui sont joueurs depuis longtemps, ils sont inhibés par cette nouvelle interface.
Et puis bon, il y a la notion aussi, un jeu vidéo, quand on le voit, nous, quand on fait des expositions avec le rétro gaming, etc. L'idée quand même qu'un jeu vidéo, quand on y joue, il faut bien sûr qu'il procure un certain plaisir, qu'il y ait une certaine jouabilité, et puis surtout qu'on, on parle de l'interface, mais tout ce qui est la relation entre le geste qu'on va avoir et la conséquence sur l'écran ou dans le jeu, qu'on arrive à faire un lien facilement. C'est-à-dire qu'un jeu peut être très beau, si finalement j'appuie sur deux boutons et je fais quatre tournées acrobatiques et je fais le tour du terrain et j'embrasse la foule, etc. Et je ne sais pas comment c'est passé, je ne jouerai pas. Ce n'est pas jouable, il n'y a pas de plaisir à jouer à ce genre de choses. Alors que là, la canne à pêche, on voit de manière très simple et très majeure. Peut-être bon, c'est un jeu dont un gamer se lasserait très facilement. Bon, c'est marrant et puis voilà, j'ai pêché trois poissons. Voilà.
Mais justement, du coup, le tapis de danse, ça, parce que tu mets le tapis de danse sur le même plan qu'un joystick, mais finalement, le tapis de danse, il y a aussi une nouvelle. Parce que c'est avec les pieds, donc c'est
oui,
plus
non,
proche de la canne à pêche que du joystick, quand même. En termes de rendu sur l'écran par rapport à la sensation qu'on a.
En termes d'interface avec la machine, on fait avec les pieds ce qu'on fait avec les mains. Alors qu'avec la canne à pêche, je veux dire, il y a quand même tout le geste, la précision, enfin les repères spatiaux, la manière de fonctionner du. Alors effectivement, c'est une autre manière de jouer, c'est un autre mode de jeu immersif, mais qui n'est pas si différent que ça. Si on regarde la technologie, je veux dire, je prends le tapis de danse et je peux faire le même en petit sur un bureau, quoi. Alors que la canne à pêche, c'est une autre manière de jouer quand même, en termes de repères spatiaux.
À ce moment-là, si on avait un émulateur, on pourrait jouer au jeu de danse avec simplement les doigts, mais je ne suis pas sûr que les joueurs le feraient.
Il y a
Et alors, du coup, est-ce que, par exemple...
Après, il y a l'imaginaire, il y a dimension imaginaire. Je veux dire, quand tu vas sur au salon de jeux vidéo, tu vois effectivement, ou même à la Game Convention, il y a tous les grands standards de jeux, etc. Déjà, on voit en fonction des jeux, déjà, les stands où il y a plus de filles que de garçons, les stands où il y a plus de garçons que de filles, etc. Bon, bah, effectivement, sur les stands DDR, effectivement, il y a plus de filles, etc. Parce qu'effectivement, le tapis de danse, il y a une sensation, il y a autre chose. Hein. Mais je dis que finalement, en termes de capteurs, c'est pas si différent que ça d'un joystick.
D'où justement une question, qu'est-ce qu'il en est des jeux auxquels, du coup, on peut jouer avec des interfaces complètement différentes ? Ne serait-ce que sur PC, le fait d'avoir un joypad pour jouer
C'est simplement, il faut accepter qu'on joue pas au même jeu. Je dirais que même le même jeu avec un pad sur lequel on joue sur un PC, un jeu, sur un émulateur, ce ne sera pas la même expérience de jeu.
Les fonctions sont exactement les mêmes.
Oui, mais ça, on le voit.
Le tapis de danse n'avait pas vraiment de nouveauté puisque les fonctions restaient les mêmes. Or là, les fonctions restent bien les mêmes.
Les fonctions vont rester les mêmes, si ce n'est que de limiter le jeu aux fonctions, ça suffit. Il y a tout l'environnement, tout ce qu'il y a avec. Quand on fait jouer, par exemple, à quelqu'un, là, on a une exposition, par exemple, qui est en train de tourner, une exposition éducative, qui est en train de tourner à Rony, où il y a, c'est adressé à un public jeune, c'est une machine qui tourne toute la journée, des N64, etc., mais les gens jouent sur des émulateurs. Mais dans la vitrine, il y a la console. Et l'expérience est complètement différente si on fait jouer quelqu'un sur un PC avec le pad qui dépasse, etc.
C'est pour ça que je ne comprenais pas pourquoi le tapis de danse n'apportait quasiment aucune...
Non, je ne dis pas, je dis qu'il peut être apparenté à un joystick en termes de technologie. Il y a une nouveauté,
C'est juste les fonctions de direction et d'action qui sont les mêmes.
Après, l'expérience est quand même différente. Je ne dis pas que c'est complètement... Après, c'est mon interprétation, mais c'est plus près en termes d'interface de jeu d'un joystick pour les pieds que d'un capteur complètement différent, d'une immersion de jeu complètement différente. Après, effectivement, il y a tout le corps qui joue. Enfin, c'est complètement différent de bouger que d'être sur un siège, jouant seulement avec ses mains. Ça, c'est sûr que c'est une expérience de jeu différente. Mais en termes de capteur, bon, on peut le mettre, on peut négocier à quel endroit on le met, mais c'est pas complètement joystick, je l'accorde, mais c'est pas non plus, selon moi, si différent que ça.
Une autre question toute bête, les joysticks au fil des années ne sont pas restés exactement les mêmes, le nombre de boutons a largement augmenté, qu'est-ce qu'il en est du nombre de boutons et du nombre de commandes? Mais tout simplement, qu'est-ce que ça permet de...
Alors il y a, bon, ça c'est très, ils vont en parler sans doute plus moi, parce qu'il a fait beaucoup de photographies, mais il y a beaucoup de, les constructeurs, bon déjà le joystick pour un constructeur, en tout cas pour les consoles de jeu, c'est un moyen de s'identifier, c'est-à-dire de fidéliser avec la couleur des boutons, avec le design des boutons, avec le nombre de boutons, etc. Donc il y a effectivement des fonctions qui s'enrichissent. Bon, si on prend sur Nintendo par exemple, il y a des réflexes, sur PS1, il y a des réflexes qu'on peut avoir avec des gâchettes, avec des nouveaux boutons. Donc il y a effectivement de nouvelles manières de jouer sur le joystick. On ne peut pas dire que le premier, le joystick numéro 1 avec un bouton fire et juste un petit stick pour déplacer son vaisseau, c'est la même chose. Donc on enrichit le nombre de boutons, mais finalement il y a quand même un certain nombre de limites. Il y a quand même un certain nombre de limites, ça veut dire que bon, maintenant, on va peut-être arriver quasiment, c'est un clavier, c'est pas un clavier, mais enfin un pad aujourd'hui, il y a un nombre de boutons défini, le joueur il est familier avec telle ou telle marque, et je ne pense pas que le constructeur ait intérêt à beaucoup l'enrichir. Et je pense que les nouveautés, elles ne viendront pas justement du type ou du nombre de boutons, ou peut-être quelqu'un peut encore avoir une idée géniale hein, sur un bouton directionnel ou sur un stick directionnel, mais il y a des jeux qui ont trouvé, bon, il y a des nouvelles fonctions qui sont entrées dans les jeux. Le fait d'avoir plusieurs boutons, combinaisons de boutons pour les jeux de combat, pour Tekken, pour les jeux de sport, etc. Il y a effectivement de nouvelles manières de jouer qui sont venues liées à ça. Mais c'est toujours finalement le même procédé. On peut rajouter encore un bouton pour telle fonction. Enfin, c'est...
Oui, mais si on change d'échelle et qu'on regarde les changements de détails, le fait qu'il y ait des gâchettes derrière, devant, sur les manettes qui se sont rajoutées, le fait qu'il y ait des changements de détails, par exemple les outputs, entre les actions offensives et les actions défensives dans le choix des boutons, ça a pourtant changé. Donc, au moins dans l'esprit des concepteurs, il y a dû y avoir l'idée qu'il y avait un intérêt à changer.
Il y a un intérêt des concepteurs, c'est-à-dire qu'il faut rendre le pad jouable. C'est-à-dire que ça, les tests, il y a énormément de tests qui sont faits là-dessus. Il y a énormément de tests qui sont faits par les constructeurs. Et puis après, il y a l'idée de fidéliser une personne, la rendre plus Sony sur un pad, la rendre plus Nintendo. Il y a cette idée-là quand même des constructeurs. De pas trop changer, de vraiment mettre leur empreinte sur le pad. Et quand on prend par exemple sur une manette compatible hein, pour une console, il y a très peu de changements. Alors forcément, elle est pour la console, donc elle a le même bouton, mais c'est rare qu'on trouve des grosses originalités sur le pad ou sur le joystick.
D'autant que la gâchette, maintenant, il y en a sur toutes les manettes, donc ouais. Tu passes d'une console à l'autre sans problème en fait.
Oui, mais la position des joysticks, elle y fait énormément aussi.
Ouais, ça, par contre,
le fait que sur la Xbox, elle soit désaxée, que les deux joysticks soient désaxés, alors que sur PlayStation, les joysticks sont côte à côte. Et c'est très déstabilisant, surtout sur des jeux de tir. Mmh. Surtout que tu ne peux pas jouer avec la 3. Mmh. Ouais, voilà. Mmh. Enfin, moi, je pense que c'est ça qui... Enfin, ça ne sert à rien de rajouter un bouton, quoi. C'est juste la position de la manette. Après c'est peut-être une question d'habitude aussi, sûrement, parce que je sais pas, moi si je me donne une manette Sony, je suis perdu quand même, quoi, avec les deux joysticks comme ça, c'est galère.
Côte à côte.
Et je pense que c'est pareil pour les autres, quoi. Une touche à la Xbox.
Il y a une vraie question d'habitude. Quand on parle aux joueurs, il y a une vraie question d'habitude, c'est-à-dire que souvent la première console a marqué ce qu'on va acheter par la suite. À moins de vouloir vraiment aller vers un jeu, souvent, ce qui fait changer de console, c'est vouloir aller vers un jeu. C'est parce qu'il y a une lacune dans les produits proposés, logiciels proposés sur une console. Il y a un logiciel qui sort un petit peu avant, etc. Et c'est souvent ça qui provoque le changement de marque.
Ouais. Pour prolonger la question là, tout à l'heure sur la complexification des interfaces de style manette, vous n'avez pas parlé du clavier simplement. Je sais que c'était très orienté console, mais j'aurais aimé qu'on ait peut-être une petite réflexion, peut-être quelque chose à dire sur les claviers.
Les manettes clavier.
J'allais parler, d'une Nostromo, hein, par exemple, hein, qui est un système de contrôle à boutons. Bon, c'est plutôt pour hardcore gamers. Hein, sur des, beaucoup, enfin, c'est très très populaire en MMORPG ou en trucs comme ça, hein, pour faire des macros et des trucs. Mais je ne sais pas, est-ce que vous l'avez intégré dans cette réflexion? Parce qu'il semble y avoir à la fois une simplification extrême des interfaces avec des choses un petit peu... plus intuitif, on va dire. Ouais. Et à l'inverse, donc, quand on se tourne non pas vers le casual gaming, mais qu'on va vers le hardcore gaming, ouais. Donc là, c'est les puristes, il y a des claviers customisés, spécifiques, les souris, on les laisse avec du plomb, on met des trucs inertiels. Hein. Quand vous faites des vraies compètes, je peux vous dire qu'on n'utilise pas la souris de tous les jours.
Non, hein. Ça c'est sûr.
Moi, j'utilise un bon clavier et une bonne souris.
Bon, alors
là, est-ce que vous l'avez intégré dans votre réflexion ou vous avez dégagé, vous avez déjà eu des éléments?
Non,
de...
la réflexion elle était tournée vers ce qui est finalement pour les tout ce qui est consoles next-gen aujourd'hui, finalement ma réflexion était peu tournée pour le jeu actuel, mais plus ce qu'on appellerait le rétro gaming.
D'accord,
c'est
rétro gaming.
Et bon, j'ai pas parlé là du jeu PC ou même des jeux, même la plupart des jeux, ne serait-ce que sur un Apple II. Sur Apple II, il y avait des joysticks. On jouait plus au clavier que.
Oui,
on jouait plus au clavier, ça c'est sûr. Mais les consoles ont repris le dessus finalement, les années 90, hein, ont repris le dessus sur les ordinateurs. Donc on jouait effectivement beaucoup plus au clavier que à la souris, qu'à la main, au joystick.
Au joystick, oui. Voilà.
Il y a moins les producteurs de jeux sont plus décomplexés. L'idée de faire sortir un jeu avec un périphérique, une interface spécifique à ce jeu. Enfin, tu vois, tu parlais de Guitar Hero, c'est ça. On fait sortir le jeu plus une interface qui n'est que pour ce jeu. Est-ce que c'est une évolution récente, ça, ou est-ce qu'on a toujours vu ça dans l'histoire des jeux vidéo?
Il y a le problème qu'il y avait le gros problème qu'il y avait avec ces interfaces dans les années 80 notamment, c'est qu'il n'y avait pas la notion de plug and play, c'est-à-dire que quand il y avait un périphérique à faire fonctionner avec le jeu, il y a eu des jeux comme ça avec des périphériques. Il y a des périphériques qui étaient directement intégrés dans les machines, comme les stylos graphiques sur Thomson, etc. Mais après, il fallait, quand on installait ce genre de périphérique, ne serait-ce qu'un volant ou certaines manettes sur Commodore 64, il fallait... Il fallait passer beaucoup de temps à le mettre en fonctionnement. Donc après, les éditeurs se sont dit, mon jeu, si on n'y joue pas facilement, rapidement, si on ne met pas en place rapidement, il ne marchera jamais. Bon, déjà, à l'époque, on chargeait avec une cassette un jeu pendant longtemps. Si en plus, il fallait faire... Il y avait tout le travail avec les fils et tout, ça ne marchait jamais. Ça ne marchait jamais. Donc il y a eu des initiatives comme ça, mais à chaque fois, effectivement, ce n'était pas... Aujourd'hui, je pense que c'est accepté. Au contraire, je pense que même pour le public, c'est dit, bah, j'en ai finalement un peu plus dans mon package, et j'achète mon volant, ou j'achète ma guitare comme un consommable, aussi comme une...
C'était des stratégies marketing de la part des consolistes, de prolonger la courbe de vente. Quand tu regardes la Wii, au départ, il n'y avait rien. L'année d'après, pour pouvoir continuer à être sur une courbe ascendante, ils ont multiplié les périphériques. Voilà. Multiplier les périphériques, ça permettait de multiplier les rentrées d'argent. Quand on regarde les courbes de marché des consoles, hein, c'est une espèce de boss. Ben là, ce qu'on voit, c'est que la boss, il la prolonge un peu plus loin, ce qui permet de, avant de devoir proposer quelque chose de nouveau, bah de gagner 6 mois, 1 an de vente. Et c'est
oui, mais ça vient des producteurs de consoles. Parce que ça, c'est ce que les game designers, peuvent dire, moi je fais ce jeu, mais il faut un nouveau périphérique, il faut une nouvelle interface, et je ne fais ce jeu que pour une nouvelle interface. Et aller voir le producteur.
Non, mais ça se passe pas. C'est une question de marché. C'est pour ça que je parlais de marché, hein, la chaîne de production d'un jeu. C'est rarement
c'est pas les studios qui décident de ça. On va schématiser, hein, à l'extrême, on va dire que les studios sont aux ordres de donneurs d'ordre, hein, qui leur passent des commandes. La majorité des jeux sont des jeux entre guillemets sous licence. Hein. Donc on veut faire un jeu Astérix, on veut faire un jeu Lucky Luke, et on commande sur telle déclinaison de plateforme ou en light, on veut, etc. Donc les studios sont en quelque sorte aux ordres. Guitar Hero, c'est un peu un ovni, hein, d'une certaine manière. C'est un ovni en termes de type de jeu, de game design. C'est un ovni en termes de, on met en place une guitare pour contrôler. Donc c'est véritablement exceptionnel. C'est un cap. Hein.
Le studio était appartenant à un éditeur qui pouvait se...
Voilà, il y avait aussi un certain nombre de synergies internes qui fait qu'il pouvait se lancer dans une aventure comme ça.
Le marché du cinéma, tu vois, un film indépendant qui fait un carton.
Voilà, c'est ça.
C'est sympathique, mais ça reste marginal.
Ça reste très marginal. À l'heure actuelle, des jeux entre guillemets novateurs qui ne sont pas des déclinaisons de schémas existants ou comme ça, des jeux à prise de risque, il y en a très très peu. Surtout, je parle sur des jeux entre guillemets, que je baptise moi-même hollywoodien, c'est-à-dire de la grosse prod, hein, de la prod à plusieurs dizaines de millions. C'est rare, hein, parce qu'il faut techniquement en amont, il faut que vous ayez un donneur d'ordre qui aligne, avec une prise de risque énorme.
Moi, il y a quelque chose qui m'intéressait dans ce que tu disais sur le clavier, c'est-à-dire que le clavier, pour moi, c'est une manette modulable. Et ça, c'est très intéressant. Enfin, pour moi, c'est le contrôleur, on va dire, ultime. C'est-à-dire que chaque joueur peut construire sa propre ergonomie, en fait, sur un clavier, en changeant les touches avec d'autres périphériques. Donc, en fait, tu as cité Nostromo tout à l'heure, ou les claviers à macro dans G5, etc. Les souris, c'est pareil.
Le clavier répond à un besoin de précision. En fait, dans certains jeux, il y a besoin de précision. À l'inverse, les interfaces un petit peu plus entre guillemets intuitives sont floues en termes de détection. Hein. Il faut savoir qu'à une époque, on a beaucoup parlé du data glove, hein, en réalité virtuelle, hein, le data glove. Les gens sont vus comme dans Minority Report. Enfin, là, c'est directement sur un écran, mais les gens se sont vus manipuler en 3D les objets. Bon, le data glove à l'heure actuelle, il n'est pas résolu. Hein. Détecter les mouvements des doigts, hein, quand, tous les films, quand vous voyez les gens qui pilotent leur cyborg comme ça, à l'heure actuelle, on n'en est pas. Hein. Détecter la flexion des doigts, actuellement, on a déjà du mal à filtrer un signal entre ça et ça. C'est pas évident du tout. Hein. Donc, en RV, on en est revenu, pas typiquement de ces interfaces.
Après, le clavier n'a pas vocation à être poussé par les... C'est très peu démoralisant, à part celui qui est dans une recherche particulière dans son jeu, finalement, pour jouer un grand public et un marché important. C'est très, très peu.
Je veux dire, enfin, de toute façon, les manettes ont tendance quand même à arriver aux mêmes choses, parce qu'on n'avait pas de gâchettes sur certaines consoles qui les ont adoptées plus tard. Enfin, pour moi, les manettes des consoles, même si elles sont un peu différentes, donc avec un joystick désactivé pour la Xbox et symétrique pour la PlayStation, elles finissent par se ressembler dans le
principe est le même, hein. Je vais refaire un saut arrière droit en tirant à Warcraft et en appuyant machin pour dans Tekken faire tel combo. En fait, c'est rien qu'une synchronisation, sauf que la disposition des doigts et des contrôles n'est pas la même. Mais là, ce qu'on cherche, c'est des combos qui sont affreusement difficiles. On rentre pas du tout dans le jeu de pêche ou dans le jeu de danse. Hein. C'est pas du tout le même public qui est visé.
Encore une fois, est-ce qu'on ne réduit pas du coup l'interface purement à de la fonction, c'est-à-dire tant et tant de boutons qu'on place sous les doigts. Le fait d'avoir des boutons sous les doigts ou alors la main comme ça change quand même beaucoup de choses du point de vue du corps du joueur.
Ah oui,
c'est comme essayer de danser sur un tapis.
Je suis d'accord. On peut se battre. À Tekken, on finit par faire ça pour esquiver. Hein, sur un canapé, on le fait. Hein. Parce que je dirais qu'à la limite, vous mettez 10 boutons simplement en binaire, ça vous fait 1024 possibilités. Hein. Pour les deux doigts de ma main, vous avez déjà un grand nombre de combos. Par contre, c'est pas forcément très prenant de jouer comme ça, quand même. Faut bien le dire.
Juste une dernière remarque, c'est il y a un des périphériques qui a pas été, dont on n'a pas du tout parlé, c'est la webcam. Et je pense que c'est quelque chose, en particulier avec la réalité augmentée, je pense que c'est quelque chose qu'on va beaucoup voir ces prochaines années, qui a déjà été utilisé.
Pour l'immersion. Ouais, ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est vraiment, j'ai tourné vers, je savais qu'il y avait parlé d'autres choses après, donc j'étais tourné vraiment dans ces années-là. Effectivement, il va y avoir de plus en plus, tout ce qui est processus immersif, qui sera peu cher et facile à mettre en œuvre, ce sera intégré, ne serait-ce que de changer la tête du personnage, de mettre la tête du joueur, enfin bon, c'est des choses qui vont se voir de plus en plus dans les jeux vidéo. C'est facile à faire avec une webcam, on prend une petite photo et puis on la greffe. Ça, c'est des choses qui sont, qui coûtent pas cher, qui sont faciles à mettre en œuvre pour le développeur, enfin en tout cas pas trop compliqués, et Voilà. Mais par contre, des jeux immersifs, comme décrivait avec des capteurs plein les doigts, et ne serait-ce que des gants, des choses comme ça, ça coûte beaucoup plus cher en termes de développement et puis en termes de périphériques aussi. Hein. Même si on en vend beaucoup, ça reste quand même pas évident.
Et ces capteurs sont très fragiles.
Ok. À nous de d'enchaîner.
Je ne sais pas s'il y a d'autres questions.
Bon, merci.
Voilà.
Merci. On vous écoute. On...